Quand on dit c'est la Bérézina, c'est que c'est la catastrophe.
Ouais.
Oh wow.
Bérézina.
Des fois, c'est la loose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que, et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre, des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou, et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérézina, on parle de contre-success story, d'histoires semées d'embûches, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça veut pas.
L'échec. Nous avons toutes et tous ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public, parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement, souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérézina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien, les presque réussis, les jamais assez. Et pour cette toute première émission, nous avons le plaisir d'accueillir Marianne Berthaud, dite Seule Tourbe. Dans le nom de scène que Marianne Berthaud s'est choisi, il y a l'idée d'une solitude affichée et donc partagée. Et il y a la matière, brute, vivante, un sol riche sur lequel poussent les sons comme les sentiments.
Avec elle, il y a aussi tout un tas d'instruments, un clavier, du ukulélé, de la flûte, de la guitare, des petites machines électroniques. Et il y a sa voix qui parfois fait nanana et parfois se distord pour mieux compter les monstres tapis dans l'ombre. Dans les morceaux de Seule Tourbe, il y a des traversées mélancoliques et des sifflottements énergiques. Une superposition de couches et de textures sonores qui ensemble forment, selon ses propres mots, un bon plat de lasagne végétarienne. Bonjour Marianne.
Salut.
Et merci beaucoup d'être venue pour cette première émission de Bérézina, de te prêter à l'exercice.
Ben, en fait, je suis très très flattée. Je suis même super contente, voire carrément excitée. Quoi.
Wow.
Ouais.
Alors, en écoutant ton travail, en s'intéressant à ce que tu fais, une première question nous est venue, c'est comment la musique est arrivée à toi ?
Wow. C'est dur comme question. J'imagine peut-être, j'allais dire par les oreilles, mais c'est peut-être pas la vraie réponse en fait. Ce que je me dis, je me demande si la... Bon, il y aurait tout un débat sur la définition des termes. Est-ce que les sons sont de la musique ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Et du coup, de ce que je sais de ma vie, j'aurais tendance à dire que du coup, les premières vibrations que j'ai pu capté, c'était dans le ventre de ma mère, donc je dirais quelque chose comme ça. Après, quand j'étais en deux autres parties, genre un spermatozoïde et un ovule, je me dis, est-ce que je percevais des vibrations ? Ça, je sais pas, en fait, je m'en rappelle tellement pas.
Difficile de s'en rappeler.
Ouais. Après, pour dire un truc peut-être moins bizarre, quelque chose comme les comptines d'enfants, déjà, à l'école. Ce que j'écoutais peut-être, enfin, que j'entendais à la maison, que mes parents écoutaient. Qui était pas... Enfin, qui était... Je crois qu'ils écoutaient quand même pas mal de musique classique. Sans savoir trop ce qu'ils écoutaient, je pense qu'ils mettaient genre radio classique, quelque chose comme ça. Et puis, je crois que mon père écoutait un peu de rock, vite fait. Et ma mère, je crois qu'elle écoutait genre peut-être un peu Claude François, mais je suis même pas sûre. Et après, c'était les groupes Boys Band.
Ouais.
Girls Band. Ouais, East 17. Les Spice Girls.
Mmh. Bien sûr, la base.
Ouais, voilà, c'est ça. Et après, j'ai commencé à capter que par la musique, il y avait moyen de peut-être montrer une identité et que ça pouvait faire un espèce d'atout de pouvoir. J'ai compris que quand je voyais les gars discuter de musique, que genre, il y avait des spécialistes de musique. Et j'ai commencé à me dire que je voulais du pouvoir. Enfin, je ne me le suis pas dit consciemment, mais maintenant, avec le recul des années, je pense que j'avais envie de me démarquer et d'être pote avec les mecs et de pouvoir être considérée comme une spécialiste parce que je faisais de la musique en école de musique, je faisais la flûte traversière, j'ai commencé à 7 ans le solfège et la flûte traversière du coup. Et ouais, j'avais envie d'être prise au sérieux parce que j'avais déjà des envies créatives assez barrées quoi. Et j'ai commencé à écouter des trucs un peu chelous, à essayer d'écouter ce que les gars écoutaient. J'avais quelques copines qui écoutaient la musique mais on en parlait moins, enfin je sais pas, c'était un peu dommage. Et du coup, voilà, j'ai commencé la première bande de musiciens, du coup, c'était majoritairement, enfin, c'était même exclusivement des types. Ils écoutaient plutôt du métal, donc j'ai commencé à m'intéresser au métal. Et puis moi, à l'époque, j'étais vraiment, je voulais trop, être en couple. Et du coup, dès que je rencontrais un type qui m'intéressait encore plus, je me focalisais direct sur ses styles de zik qu'il aimait. Et je bûchais le truc à mort, quoi. Genre pour impressionner et puis devenir encore plus forte, quoi. Donc ouais, j'ai écouté du métal, du rock. Puis après, petit à petit, je commençais à tomber amoureuse genre des musiciens. Et alors moi, ce que je faisais pour pas avoir de problème avec mes potes, mes copines... C'est que je savais que souvent les copines, elles tombent amoureuses des chanteurs. Mmh. Du coup, moi, j'ai commencé à me focaliser plus sur les bassistes. Tu vois, genre... pas sur les chanteurs, comme ça, on n'était pas en rivalité avec les copines. Et moi, je pouvais être un peu tranquille. Souvent, j'étais un peu la seule à m'intéresser aux bassistes. Et puis là, petit à petit, heureusement pour moi, sont apparues des personnes auxquelles je pouvais davantage m'identifier. Donc, soit des femmes, soit des personnes un peu entre deux, qui étaient moins dans des clichés masculins, entre guillemets. Hein. Voilà. Alors, c'est toujours un peu délicat, je trouve, de parler de trucs de genre, mais moi, vraiment, enfin, mes premiers pas premier intérêt conscient pour la musique, il y avait quand même ce truc genré de ah ouais, c'est les mecs qui font de la musique. Est-ce qu'en tant que meuf, je peux faire de la musique? Est-ce qu'on peut être autre chose qu'un mec ou une meuf pour faire de la musique? Est-ce que ça passe forcément par j'ai un genre, je fais de la musique? Est-ce que j'ai le droit d'être prise au sérieux, même si je suis carrément chelou et qu'en plus, potentiellement, on me considère comme une meuf? Il y a toutes ces questions qui se sont posées.
Et déjà à l'époque, tu te disais que t'allais monter sur scène ou t'étais plus spectatrice?
Je voulais que ça, quoi. Franchement, ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Genre, je sais pas à quel âge, mais très très tôt, quoi. Genre, à 6 ans, moi, je voulais être une rockstar, quoi. Enfin, moi, je voulais absolument que les gens m'adorent, que je voulais être une méga star, quoi. C'était obsessionnel, quoi. Et je me faisais des films.
Et du coup, ouais. Tu disais que créativement, justement, tu commençais à bidouiller aussi très très tôt. Et c'était quoi ta première expérience, du coup, de partage vraiment en public? C'était quoi?
Alors, sur la bidouille, c'était pas en public. Le souvenir que j'ai, c'est que j'ai eu un enregistreur cassette et j'avais un autre enregistreur cassette. Et en fait, moi, je voulais jouer plusieurs pistes en même temps. Et du coup, j'enregistrais sur une première cassette. Et je mettais play après, je rembobinais, je mettais play. Et j'enregistrais, moi, en plus, par-dessus, la voix que je venais de faire sur ma cassette. Ce qu'on fait maintenant avec des loop stations, des boucleurs.
Ouais.
Ou des boucleuses. Et je passais d'une cassette à l'autre. Et en plus, c'était hyper intéressant parce que la qualité se dégradait fortement entre chaque passage. Puisque, évidemment, c'était pas dans la même machine, donc il y avait tout le bruit, environnement, puis la qualité médiocre. Il y a eu ça, et après, à travers l'école de musique, on faisait tant entendre la zik devant les gens. Et j'ai un souvenir très clair d'une espèce de soirée qui avait été organisée vers, j'avais quoi, genre 17 ans. Et là, il y avait plein de groupes, punk plutôt, ou rock un peu expé. Et nous, on avait plus ou moins un petit groupe avec des copains, enfin, je m'étais incrustée, je vais dire, un peu. Et c'était trop génial, on était sur scène et moi je voulais faire plein de trucs, je voulais être plus la star encore et tout. Et bon, déjà j'avais réussi un petit peu à rentrer dans le gang des musiciens et je voulais trop continuer, quoi.
Et, ouais. Et ce truc de vouloir être la star et d'être hyper convaincu d'un truc, comment ça se passe quand on est dans un groupe et quand tu cohabites comme ça avec des bandes de gars? Ça s'est fait facilement ou c'était un peu compliqué?
Moi je trouve que c'était compliqué. Parce que du coup, puis moi il y avait tous les enjeux de séduction, enfin, forcément ça passait par plein de trucs hyper complexes qui fait que j'étais pas complètement focus sur la musique, ce qui est pénible en fait. Et du coup moi je m'étais toujours, j'avais toujours envie de plaire au type, en même temps j'avais envie de m'affirmer plus et en même temps je pouvais pas complètement prendre des décisions, enfin je sais pas comment dire, c'était même pas de leur fait, c'était aussi ma posture. Et puis à l'époque j'avais pas vraiment de groupe fixe en fait, après ça c'est un peu plus fait, mais en fait je suis un peu... c'est vraiment ce que je veux et des fois je sais pas comment dire. Je pense que c'est peut-être pas très facile de travailler avec moi aussi. Je reconnais parce que ouais, j'ai vraiment tellement envie de faire mon truc, quoi. Ouais.
Et du coup le projet solo est arrivé quand dans tout ça?
C'est arrivé l'année dernière. Donc en fait, il s'est passé plein de trucs entre-temps. Moi, je suis arrivée sur l'île. J'ai rencontré un peu vite fait des musiciens, des musiciennes, mais vraiment vite fait. Et puis, de fil en aiguille, par une bande de copains, j'ai rencontré des types vraiment sympas qui ont picolé pas mal, surtout eux. Et, parce que moi, je tiens pas à l'alcool, mais j'essayais. Et en fait, on a commencé à faire du ukulélé. Moi, je faisais la flûte traversière et du ukulélé. Puis on a monté le Q, collectif de ukulélé lillois. On a joué peut-être 5 ans, puis on a beaucoup joué, parce que du coup, ça marchait bien dans les bars et tout. On a fait des petites tournées, parce qu'on avait des correspondants italiens et italiennes, tout ça. Et ouais, déjà, c'était bien. Et puis après, j'ai fait un peu de théâtre de rue. un peu de musique dans la rue aussi. Et puis de fil en aiguille, voilà, en fait, j'avais tellement d'envie, je voulais faire de la mise en scène, j'ai fait une espèce de grosse mise en scène, je voulais tout mélanger. En même temps, des fois, je me trouvais techniquement... J'avais des limites techniques qui m'agaçaient, par exemple pour m'enregistrer ou monter du matériel. Ou... J'arrivais pas complètement à tout relier, puis je travaillais à plein temps, donc c'était trop dur, quoi. Et après, j'ai arrêté, parce que j'ai dit... Ouais, ça me pose trop de problèmes dans ma tête, je stresse trop avant les concerts, je me dis toujours que c'est nul ce que je fais, en même temps j'ai trop envie de le faire. Enfin, ça crée trop de trucs compliqués. Puis j'avais l'impression que des fois, parce que je suis parano en plus, j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui m'aimaient pas bien parce que j'avais été pénible par rapport à des concerts ou des choses que j'avais dites, parce que des fois je dis un peu n'importe quoi, parce que je suis complètement bouleversée par mes émotions. Et voilà, et du coup je me suis dit, bon, j'arrête de me tracasser tout ça, j'arrête la musique. Et j'ai arrêté 2 ans, je crois.
Ah ouais?
Ouais, on avait fait en plus des trucs cool. Enfin, je jouais dans un super groupe de jazz, Lysistrata, où c'était vraiment des reprises jazz, mais tellement belles, avec des purs musiciens, tout ça. Mais j'ai vraiment tout quitté petit à petit, parce que j'avais l'impression de pas réussir à gérer tout ce qui était humain, et puis moi dans ma tête, quoi. Puis ouais, j'allais pas bien, en fait. Et en fait, du coup, j'ai fait 2 ans juste mon boulot. Donc moi, à la base, j'étais un stit, quoi. Et j'ai commencé à détester mes potes, quoi. Et surtout les potes qui font de la musique. Et en particulier les meufs. Et en particulier les meufs qui faisaient des trucs trop bien, quoi. Et là, je me suis dit, non, ça va pas être possible que je déteste mes amis. Enfin, dès que je voyais une nana qui postait un truc sur Facebook, je la virais de même mon fil d'actu. Je voulais absolument pas voir les copines qui faisaient des purs trucs de zik. Moi, je pourrais les citer, hein, mais il y en a plein sur l'île qui font vraiment des trucs géniaux.
Et tu faisais plus du tout de musique, non. Même toute seule?
Si, je faisais du piano. Je faisais du piano à mort. J'ai enregistré plein de pianos chez moi. Beaucoup, beaucoup.
T'enregistrer quand même?
Ouais, enfin, sur un téléphone. Moi, j'ai vraiment énormément d'enregistrements chez moi. J'ai des cassettes audio, des bandes complètes, mais tout est de très mauvaise qualité. C'est génial. Des fois, je me fais des films mégalos où je me dis, ouais, le jour où je mourrai, les gens vont récupérer les trésors de Marianne Berthaud. On dit, ouais, regarde tout ce qu'elle composait, c'est fou.
Des heures d'enregistrement.
Ouais, puis des trucs vraiment de qualité médiocre, voire carrément nul. Et d'autres choses, je pense, qui sont peut-être intéressantes un peu. Donc voilà, j'ai commencé à plus aimer mes amis et j'ai dit ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai eu un problème avec un type, ça m'a rendu trop malheureuse. Et là, je me suis dit, bon, ben, j'ai 2 options. Soit ça, c'était vraiment pas gay, quoi. Soit je décide, par exemple, de me suicider, ce qui était vraiment pas terrible comme idée. Et si je veux me suicider, c'est pas une bonne idée. Alors du coup, si j'aurais le courage de faire un truc pareil, je peux quand même faire les autres trucs avant. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me fait le plus flipper que mourir? Et je me suis dit, ah ouais, faire de la musique en solo, ça me ferait vraiment très peur. Et je me suis dit, oh, ça c'est bien, si je me suicide pas tant que j'ai pas fait ce truc-là. Et en fait, entre temps, en plus, avant, on avait commencé un duo avec Claire, une copine. On a monté les Cousines Machines. Donc, on jouait déjà pas mal depuis un an avec les Cousines Machines. J'ai commencé à lui en vouloir aussi parce qu'elle voulait pas tout le temps faire des concerts. Parce qu'elle, elle avait plein de choses dans sa vie qui faisaient qu'elle voulait pas tout le temps faire des concerts. Et elle avait raison. Et moi, j'ai dit, j'ai pas envie d'en vouloir à Claire. Du coup, j'ai monté mon solo pour que quand elle pouvait pas les concerts, comme ça, moi, je faisais ça. Et en plus, je me suicidais pas. Voilà.
Bonne option, bon choix. Enfin.
Ouais, je crois. Si, franchement, définitivement. Enfin, je peux pas dire, ouais. Peut-être que c'est vraiment bien d'être mort, hein, mais je sais
on
pas.
Verra.
Ouais, j'ai pas trop hâte de savoir.
Et est-ce qu'il y a des gens dans ces moments-là qui t'ont soit encouragé, soit au contraire encore plus dissuadé de remonter sur scène? Est-ce qu'il y a t'as des souvenirs d'échanges comme ça qui te bloquaient ou au contraire qui t'élevaient?
À fond, je réfléchis pour bien répondre. Il y a peut-être des gens un petit peu qui m'avaient dit « Oh, c'est dommage, c'était quand même bien quand tu faisais la musique, un petit peu. » Mais ça, c'est pas des souvenirs méga précis, parce que je me rappelle des trucs plutôt nuls, c'est chiant. Et par contre, je me rappelle très très bien que justement au moment où j'avais vraiment des envies suicidaires, il y a un très très bon copain qui savait que je faisais pas mal de musique et qui aimait bien... il avait dû me rencontrer au CCL, une fois où j'étais super ivre, et j'avais dû faire de la flûte comme ça, et il avait adoré. Et du coup, après, il était venu me voir en disant « On se connaît ?» J'ai dit « Non, non, je t'ai jamais vu. »« Si, si, t'étais très, très ivre, tu jouais de la flûte. » J'ai dit « Ah oui, oui, c'est moi. » Et là, lui, il a été tellement gentil, il s'appelle Octave. Et je sais pas, il a commencé à me dire « Ah ouais, c'est trop bien, la musique, c'est trop bien. » Et dès que je le voyais, il me disait « Ah, la musique, c'est trop bien, c'est trop bien. » Et je me suis dit « Ah ouais, tiens, ok. » Et lui, le fait que régulièrement, il me dise sans arrêt « Ah, la musique, c'est trop bien, faut trop que tu continues. Enfin, c'est génial, vas-y. » Je sais pas, c'était trop génial, quoi.
Et quand le projet a démarré, du coup, Seule Tourbe, parce que tu t'as dit que ça venait aussi d'un échec amoureux, enfin d'un rapport compliqué avec un gars, tout ça. Qu'est-ce que t'as commencé à y mettre, du coup, dans la musique ?
Tout. En fait, seul tour déjà quand c'est arrivé. Donc il y avait cette histoire avec ce type là que j'étais comme vraiment pas contente. Et il y avait aussi plusieurs copines qui avaient Anaïs De Jour qui est sur Calais maintenant et une copine qui s'appelle Anne et qui est à Laon en Picardie et qui a un projet maintenant solo qui s'appelle Na. Donc j'ai appelé ces deux copines qui étaient aussi des bons supports parce que tout le temps j'étais en train de leur raconter mes problèmes. Et à force de raconter des problèmes, je dis ah ouais c'est con, on a quand même la musique, c'est quand même trop bien la musique et tout. Et après, j'ai dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ferait pas... j'ai dit, vas-y, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un concert toutes les trois ? Et comme ça, ça nous fait une espèce d'obligation où on ressort... Pour Anaïs, c'était ressortir son projet. Et pour Anne et moi, c'était se décider à montrer le nôtre. Et en fait, on a travaillé plusieurs... on s'était mis d'accord plusieurs mois avant. On en a parlé à Mélina du Café Citoyen et à Ornella aussi. Elles ont dit « Ah ouais, carrément, ça nous ferait tellement plaisir que vous veniez toutes les trois. » Enfin, elles ont vraiment fait confiance. Et j'ai dit « Vous savez, c'est pas prêt. Ouais, mais on a confiance en vous. C'est génial. » C'était déjà grâce au Café Citoyen qu'on avait fait le premier concert des Cousines Machines. Donc genre, c'est trop l'effet marraine, quoi. Et puis, c'est des copines, quoi. Enfin, c'est devenu des copines, en fait, à force qu'elles nous fassent confiance. Bref. Du coup, on s'était dit 1er juin de l'année dernière, je crois bien. On fait ce truc, ce concert de nous. Et en fait, juste avant qu'on fasse le concert, je sais pas, 15 jours avant, moi, j'ai appelé les copines. Elles avaient bien travaillé et tout. Et moi, pas trop, quoi. Parce que je stressais trop et j'arrivais pas à monter mon matériel et à faire la musique. Et moi, je voulais faire du punk. Et en fait, quand j'étais chez moi, j'osais pas jouer fort. Et du coup, j'ai fait des trucs tout mous. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, je montrerai mes trucs tout mous. Et j'avais 3 trucs, je crois. Et voilà, j'ai fait ça. Et j'ai fait quoi ? Bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. En fait, franchement, j'étais chez moi, j'étais comme ça en pyjama. Peut-être que je m'étais pas douchée depuis plusieurs jours, sûrement. Je mangeais à l'époque. Je mangeais, je pense, des raviolis froides dans la boîte encore, végétarienne. Hein. Voilà, donc c'était pas bon, ça c'était pas la fête, quoi. Et je me sentais, je pense, gravement moche. Et je me suis dit, ouais, c'est pas grave, vas-y, je m'en fous, je le fais. Et aussi parce que les copines m'ont dit, tu nous lâches pas, même si tu fais une seule chose, tu le fais. Je dis, ouais, ça va être galère. En plus, c'était la première fois que je sortais tout le matériel. Enfin, il y avait le synthé. J'utilisais du coup j'utilise toujours d'ailleurs une console 8 pistes. Moi, je sais pas, régler les aigus, les médiums, les graves, les branchements, mes câbles, il y en avait qui étaient pourris. Enfin, c'était vraiment une galère infernale, quoi. Et en fait, le concert s'est bien passé. Et il y avait deux musiciens que j'adore qui étaient là. Clément et Adrien de Calégal Aventure. Et en fait, eux, déjà, Adrien, il m'avait aidé pour comprendre la console, et bien que je refasse les réglages, tout ça. Et il avait un peu écouté ce que je faisais, il a dit, c'est très bien, fais-le, c'est bien. Et puis, en fait, à la fin du concert, Clément et Adrien, ils sont venus me voir, et ils savaient que j'étais genre méga fan de leur groupe, leur duo Calégal Aventure. Et ils m'ont dit, et je voyais dans leurs yeux que c'était vrai, quoi, que vraiment, ça leur plaisait beaucoup, beaucoup, quoi. Et ça m'a fait trop de bien. Je me suis dit, putain, si des personnes que j'adore leur musique, ils valident ma musique, mais en fait, j'ai le droit, quoi.
Et ça, ce truc de légitimité, est-ce que c'est un truc que tu batailles encore avec ça, ou tu te sens légitime ?
Je me sens beaucoup mieux qu'avant, vraiment beaucoup mieux. Bon, il faut savoir quand même que moi, j'ai toujours un espèce de truc paradoxal, c'est-à-dire que je trouve que je fais des fois vraiment de la grosse merde, et régulièrement, j'ai des montées mégalos vraiment hyper fortes où je pense que je suis un génie. Donc bon, il y a aussi ça. Qui est un peu bizarre, mais quand même, en fait, j'en ai fait tellement que maintenant je me dis c'est tout. Enfin, il y a des moments, bah, comme le concert au Café Disquaire qui a eu lieu, je pense, il y a peut-être un mois, où en fait je me sens mais tellement bien avec les gens qui sont en face de moi et j'ai vraiment l'impression qu'on respire ensemble. Enfin, c'est tellement clair comme sensation que je me dis ouais, non, mais c'est tout. Enfin, mais même si je faisais un truc pourri, en fait, j'ai le droit. Voilà. Mais bon, franchement, moi, à chaque fois avant d'aller à un concert, je me sens vraiment super mal. Hein.
Mais tu te sens comment, justement ? Qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là ?
Oh, je me dis, mais pourquoi je reste pas dans mon lit ? je suis moche, je me trouve moche. Je me dis, j'ai pas envie que les gens me regardent. Et en même temps, je suis en plein milieu. Je me dis, est-ce que j'ai assez travaillé ? Peut-être j'aurais dû plus travailler. Ah, je voulais faire ce nouveau morceau, j'ai pas travaillé. Ah, des trucs vraiment pas cool, je me dis, des trucs... Je me dis, est-ce que je vais réussir à trouver une place en voiture ? Je vais tout décharger, je dois pas me faire mal au bras, parce que je me suis déjà blessée à force de porter le matériel. Je me dis, est-ce qu'on aura le temps de monter le truc correctement ? Est-ce qu'il va falloir... Enfin, plein de trucs chiants.
Et alors, tu disais que t'avais bossé à temps plein, je sais pas si c'est toujours le cas.
Non.
C'est plus le cas, parce qu'il y a cette question de quelle place prend ce projet dans ta vie par rapport aux autres choses que tu fais dans ta vie. Et est-ce que tu aurais envie que de faire que ça, c'est-à-dire que ce soit, ou c'est peut-être le cas actuellement, je sais pas, mais que ce soit la chose principale auquel tu consacres de l'énergie?
Bah écoute, c'est une question que je me pose toujours. Hein. Donc là, je suis à mi-temps. Un mi-temps vraiment très arrangeant. Et la musique, ouais, c'est quand même un peu tout le temps dans ma tête, quoi. Là, je me suis un peu calmée, mais des fois, le matin, je me réveillais... Enfin, j'étais tout de suite dedans. Après, c'est pas hyper glamour. C'est genre... Je suis pas tout le temps en train de me dire « Ouais, tel morceau... » J'aimerais trop être en train de triper sur les sons et tout. Mais des fois, c'était « Ah merde, j'ai pas fait la com pour ce concert-là. Ah crotte, j'ai oublié de prévenir truc. Ah, est-ce qu'on a demandé si on pouvait avoir des bières gratos ?» Est-ce que on a fait une facture? Ah ouais, faut qu'on monte une asso, faut qu'on officialise le truc, blabla.
Parce que tout ça, tu gères ça toute seule, tout cet aspect-là, ben, comme admin.
Ouais, pour seul tourbois. Après, ça dépend des fois quand on, comme je joue beaucoup avec les copains de Calais, quelle aventure, il y a des trucs des fois qu'on se répartit. Quand je suis avec Claire pour les cousines machines, c'est pareil, on peut se répartir le truc pour jour, parce que du coup, j'accompagne Anaïs dans son projet jour sur Calais. Là, c'est plus elle qui gère. Moi, je m'occupe vraiment de mes parties d'accompagnement. Et puis après, ben, quand j'ai des projets avec d'autres compagnies, c'est normalement plutôt les compagnies qui gèrent le côté administratif et moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est création. Mais ouais, j'ai des rêves genre une grande pièce avec une baie vitrée, avec la mer, par exemple, et genre du pur matos, et je sais pas, un endroit où il y aurait toujours de la très bonne nourriture préparée, et très bonne, et plein d'amis, et on serait tout le temps en train de faire des expériences, et puis on pourrait prendre beaucoup, par exemple, de drogue, mais ça n'aurait pas d'effet négatif sur nous. Tu vois, juste, ce serait que positif. Et voilà.
Bah justement, cette mythologie-là de ce que c'est qu'être un artiste dans nos rêves, est-ce que toi, en étant aujourd'hui artiste dans le réel, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas, quoi? C'est quoi les trucs qui font que tu dises « Ah ouais, en fait, c'est aussi ça, être artiste, quoi ?»
Bah déjà,
est-ce que tu te présentes comme artiste quand les gens te demandent ce que tu fais dans la vie?
Ouais, je finis par dire ça quand même. Mm-hmm. Je dis peut-être plus facilement musicienne, mais c'est vrai que, bon, après, je gribouille un peu. J'ai fait un peu de montage vidéo. Je m'intéresse aussi un peu à la technique, donc des fois, j'aimerais un peu être me valider en tant que technicienne. Mais, bah ouais, artiste, c'est... Je sais pas, c'est un boulot, quoi. C'est un... Ou pas, En fait, c'est trop bizarre, ce truc. Mais... Je me suis demandé, en fait, à un moment donné, si ça valait pas le coup d'évacuer ces questions pour juste s'y mettre. Parce que, en fait, des fois, quand je me posais trop la question, genre, est-ce que je suis une artiste? Est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Je me dis, peut-être que je peux virer ce truc-là. Et comme ça, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Voilà, j'ai envie de jouer beaucoup parce que clairement, moi, les week-ends, sinon, je me sens très mal. Et je me dis, ah, je suis pas en couple, nanana. Et je me dis, ouais, bon, bah, vas-y, je m'en fous. Je veux faire des concerts, je veux voir des gens, je veux me prouver que j'arrive à faire le truc. Et c'est tout. Et en fait, ça prend tellement la tête, tous les trucs à faire, que j'ai même plus à me dire, est-ce que je suis légitime ou pas? Enfin, j'ai plus le temps. Ça répond? À peu près.
Ouais, ouais. Oui, oui, complètement. Et sur la notion de l'échec, toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, échouer?
Ah, c'est trop beau. Moi, je pense tout de suite un truc au bord de la mer, tu vois, genre, on est là, hop, dans les vagues, et puis on échoue. Et bizarrement, je trouve ça assez doux. Il y a vraiment un truc genre de complètement lâcher prise, genre ouais, je m'imagine tomber d'un bateau, genre par exemple c'est la tempête, il y a l'orage et tout, je tombe dans la mer, c'est l'horreur, je vais mourir, machin. Et donc je peux plus rien faire, je peux plus nager, je suis trop fatiguée, je m'épuise et puis en fait juste la mer elle fait son truc, elle me ramène sur la plage. Et là il y a justement ce studio d'enregistrement qui m'attend avec tous mes potes, avec, avec ouais, tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ouais, j'imagine ça. Et l'échec, je trouve que c'est la base, quoi. C'est bien. Ah, c'est le carburant, je crois. Enfin, je sais pas si c'est le carburant, mais je me demande si c'est pas un passage obligatoire. Et que vraiment, ce serait de se leurrer, d'imaginer qu'on n'y passera pas. Et alors, j'essaye de comprendre maintenant comment je pourrais vraiment me tranquilliser encore plus avec l'échec. Parce que du coup, je commence à ressentir de la gratitude pour toutes les fois où j'ai fait vraiment des trucs où j'ai trop rougi de honte. En fait, on a fait un concert là. Aux quatre écluses il y a quelques jours avec Jour. Et sur une note, on n'a pas pris la note bien correctement. Et en fait, ça sonnait faux. Et j'ai paniqué. Et après, je me suis dit, vas-y, déguste. J'avais l'impression que dans la salle aussi, ça faisait genre, qu'est-ce qu'elles font, quoi? Et je me suis dit, vas-y, reste dans ce moment. Il vaut le coup, il est chelou, il est vrai, il est à côté. Mais je me suis dit, peut-être il y a moyen de prendre un peu de plaisir dans ce ratage, quoi. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, clairement, quand un truc va être un peu raté, j'ai l'impression que c'est plus humain. Enfin, ça me touche plus. Je vois plus l'humain bizarre ou nul ou un peu banque. Et je me sens plus proche des artistes qui font des fois des trucs un peu genre wow, c'était pas prévu ça. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est des moments de vérité qui sont genre comme des pépites, quoi. Après, ce qui serait extraordinaire, c'est de réussir à faire de sa vie un échec total et de vraiment être dans le kiff, quoi. C'est con ce que je viens de dire, peut-être ça marche pas. Je m'assure.
Moi, c'est une question, mais tu viens un peu d'y répondre, mais assumer ses échecs face aux autres, quoi. Il y a un peu le truc, souvent l'échec, c'est par rapport à soi, mais c'est aussi par rapport aux autres. Aussi, comment je raconte ou je ne raconte pas qu'un projet, par exemple... a échoué ou est tombé à l'eau, mais à cause de moi, à cause des autres, à cause d'un mélange des deux. Est-ce que toi, tu te sens... Enfin, est-ce que ça te parle, ça, ou ce rapport à comment tu racontes aux autres aussi, ou pas, ce qui ne fonctionne pas?
Ouais, attends, je réfléchis, parce que j'ai peur d'être malhonnête, sinon. ouais, je crois que je raconte hein, quand ça foire, je crois, quand même. Bon, je ne sais pas si c'est complètement connecté à ce que tu viens de me dire, mais je crois que c'est une règle de clown, de quand on pense se tromper, on répète plusieurs fois l'erreur. Et comme ça, on l'inclut. C'est ça qui fait le terreau intéressant, quoi. Et du coup, je me suis dit que ça, c'était applicable à la musique. Du coup, par exemple, quand je fais une note qui n'est pas dans la gamme, en improvisation, ou même quand c'est écrit, parce que je me trompe régulièrement, j'essaye de la garder et d'y revenir. J'avais vu un pianiste qui s'appelle Yaron Herman et qui s'amuse à reprendre des fois des trucs genre Radiohead ou Nirvana, mais en mode super beau, quoi, au piano. Enfin, bien que ce soit très beau déjà à la base, mais en mode piano. Et une fois, il a joué sur l'île et il y avait une des touches du piano qui était franchement désaccordée, quoi. Il y avait eu un problème au moment de l'accordage juste avant qu'il joue. Et donc, quand il est arrivé dessus, mais tout le monde l'a capté, quoi. Ça a vraiment fait genre un petit frisson dans la salle, quoi. Et il est revenu. Et en fait, j'ai un trop bon souvenir de ce morceau-là, avec cette note qui sonnait bizarre et qui était trop cool. Mais du coup, ouais, moi, l'échec, je deal un peu comme je peux. J'imagine que mon inconscient, il deal pas mal de trucs avec ça, tu vois. Genre, il s'arrange un peu à sa façon. Des fois, je me demande aussi quand est-ce que je me trouve des excuses, tu vois. Genre, un truc qui foire et je me dis, ouais, c'était pas de ma faute. Puis quand le temps passe, au bout d'un moment, je me dis, ouais, c'était peut-être... peut-être j'ai fait un truc quand même. qui fait que ça s'est pas... Ça aurait pu mieux se passer. C'est vrai que c'est pénible, hein. En fait, faire des trucs, je sais pas vous, mais plus je fais des trucs, et plus il y a de chances que je foire.
Oui.
Donc, c'est tout, quoi. Je me suis dit, est-ce que j'arrête de faire des trucs? Ou est-ce que j'assume que, de toute façon, je suis que quelqu'un de relativement... merveilleusement médiocre, et que ça risque de continuer comme ça un paquet de temps, mais que... En fait, c'est trop bien de faire des choses. Puis faire la musique, en plus, moi, ça me permet de rencontrer des gens. Là, je suis avec vous. C'est trop génial. Et puis, quand ça se passe bien, et quand la plupart du temps, ça se passe bien, moi, j'ai l'impression de recevoir de l'amour en barre, quoi. Et puis quand, en plus, il y a des gens, après les concerts, qui me disent « Ah, moi aussi, j'aimerais bien faire de la musique et tout. » Alors, il y a deux voix dans ma tête. Il y en a une qui fait « Ah, j'espère que ces personnes ne seront pas meilleures que moi. » Et en même temps, je me dis « Ouais, c'est trop bien, il faut trop qu'il y ait du monde, quoi. Ouais. » Et surtout quand c'est des gens où je peux plus m'identifier à ces personnes-là, je me dis « Plus il y aura des gens auxquels on peut s'identifier. » Moi, je me dis « Si j'avais eu plus de gens auxquels je pouvais m'identifier plus jeune, je m'y serais peut-être mise encore plus tôt. » Et j'aurais peut-être fait révolutionner complètement le monde de la musique, quoi.
Et justement, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un, alors que ce soit dans le monde de la musique ou en dehors, qui te donne de la force ou qui te dit « Ah ouais, non, ça va aller », en fait, quand soit t'en as marre, soit t'as besoin créativement d'aller puiser quelque part, est-ce que tu penses à des gens?
J'ai des espèces de doudous musicaux, des espèces de repères. Moi, je fais des fixettes sur des artistes régulièrement. Ça va être ma fixette du moment. Ma dernière fixette, c'était sur, je crois qu'il s'appelle Erwan Kassex, je suis pas sûre. Le mec de Rhône, fait de la musique électro.
Ouais.
Donc j'ai découvert son truc, j'ai fait, ça m'a mis une grosse claque. J'avais pas envisagé la musique et les sons comme ça. Et du coup, ça c'était très bon, très très bon. Et après, franchement, je suis vachement, vachement bien entourée, quoi. Donc, les copines, les copains, le fait que les copines des microscopies me fassent confiance, d'un coup, je me dis, ah, oh, punaise, elles sont méga valables. Attends, elles me font confiance en moi. Wow! Soit il y a eu une maldonne et elles vont regretter. Mais en tout cas, à priori, elles me font confiance. Donc, peut-être c'est bien. En tout cas, ça leur plaît. Genre de truc, quoi.
Bon, c'est chouette parce qu'on est parti de ton nom, Sol Tourbe, avec une image comme ça de, justement, de solitude et de faire la musique dans son salon et d'être dans son truc. Et en fait, c'est un peu l'inverse. Enfin, en tout cas, il y a un vrai système de soutien qui fonctionne avec Sol Tourbe.
Enfin, c'est les deux. C'est vraiment les deux. Je continue d'être en pyjama pendant des jours entiers à me dire j'ai 3 jours pour répéter et je répète le dernier jour. J'ai fait que des trucs nuls pendant 2 jours sur Internet, tu vois. Donc, il y a toujours ce truc-là qui est clairement pour moi une forme d'échec total. Et je me dis, ouais, bah c'est moi. Et à côté de ça, c'est ça qui me permet de sortir, de prendre une douche, et puis de me dire, allez, je le fais. Puis je sais pas vous, mais des fois j'essaie de m'imaginer à la place des gens qui me regardent, mais je me dis, si je voyais quelqu'un comme moi, je me dirais, oh là là, mais elle ose faire son truc comme ça. Des fois, même, je regarde des fois les photos après les soirées, je me dis, mais je suis trop mal sapée, quoi. Des fois, clairement, comme je transporte vachement le matériel, je m'habille, moi je transpire à mort, tu vois. Du coup, j'ai toujours une espèce de débardeur dégueulasse. Je me dis toujours, je prends toujours une belle chemise pour le moment du concert, mais comme avant le concert, je suis tellement speed et que j'ai trop transpiré, enfin, tu vois. Souvent, j'ai juste le temps, genre, de passer aux toilettes vite fait, puis je me dis, bon, de toute façon, je vais rien pouvoir faire de plus. Puis je dis, ouais, vas-y, tant pis, je reste en ce truc pourri. C'est vrai que je ne présente pas de ouf, quoi. Mais je sais pas, les gens, ça a pas l'air de les déranger. Puis tant pis pour la com, quoi. C'est vrai que je suis pas cute, quoi. Mais...
Ouais, ça, c'est, en plus, c'est toi qui le dis. Ouais. T'avais quand même une super veste.
Ouais.
Super brillante, que tout le monde t'envie à chaque fois.
Non, mais attends.
Magnifique veste.
Ce qui est génial, c'est que j'en ai une nouvelle.
Ah.
Ouais, que je vous ai pas encore sortie. Et je pense que je vais la sortir pour le concert.
Ouais, teaser, là.
Ouais, ouais. Franchement,
donc les gens, rendez-vous.
Cette veste, elle est trop folle.
Ah bon, on a hâte alors. Bah, un grand merci Marianne de nous avoir fait confiance pour cette première interview.
Bon, merci.
C'était un moment hyper précieux, hyper chouette avec toi.
Trop cool.
Et puis merci à ceux et celles qui nous ont écoutés, qui ont pris le temps avec nous.
Merci beaucoup.
Salut. Thank you.
Ouais, c'est que je voulais faire un truc un peu en diminuant, mais dès que ça enregistre, ça me stresse et je me gaufre. Ok, super, on le refait.